VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia, la présentation de cette édition de 17h30, temps universel. On est le 6 juin 2017 au sommaire. L'opposant congolais Moïse Katumbi annonce une nouvelle fois son retour imminent en RDC. Au Mali, un soldat et deux civils parmi les dernières victimes des attaques djihadistes alors que l'ONU discute de l'extension du mandat de la MINUSMA, la mission onusienne sur place. La CPI enverra bientôt une mission au Gabon suite aux plaintes du gouvernement d'Ali Bongo et de l'opposant Jean-Pierre.
Le Gabonais lambda qui recherche la justice est très content de cette arrivée prochaine d'une délégation de la CPI.
Interview à suivre dans la partie magazine de cette édition. La Russie affirme avoir tué plusieurs dirigeants de l'organisation État islamique, dont son leader Abu Bakr al-Baghdadi. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Au Mali, une série d'attaques a fait deux civils et un soldat tué et des postes de douane et de gendarmerie incendiés. Ces nouvelles attaques ont été attribuées au groupe djihadiste Ekiabadou.
Le Mali est endeuillé après de nouvelles attaques. Deux d'entre elles ont eu lieu à proximité des frontières avec le Niger et le Burkina Faso. Ce vendredi, dans le village de Soumouni, deux paysans ont été tués dans leur champ par six hommes armés circulant sur trois motos. Jeudi, les terroristes ont attaqué et brûlé le poste de gendarmerie et la douane de Ombouri sans faire de victimes. Le même jour, au centre du pays, un véhicule de l'armée malienne a sauté sur une mine posée par les terroristes. Un militaire a ainsi perdu la vie et deux autres ont été blessés. 24 heures avant l'explosion, des hommes armés ont été aperçus. Ces incidents surviennent alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit discuter aujourd'hui du Mali, notamment de la reconduction pour un an, à partir du 30 juin, de la MINUSCA, le mandat de la mission de l'ONU. Des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes et étrangères, régulièrement visées par des attaques meurtrières, malgré la signature en mai-juin 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes, mais dont l'application accumule les retards.
Le Niger et la Côte d'Ivoire frappés par des pluies diluviennes meurtrières. Au moins 14 personnes, en majorité des enfants, ont été tuées au Niger et 11 en Côte d'Ivoire à la suite de fortes pluies qui ont provoqué des effondrements de maisons et des glissements de terrain. Ces victimes sont essentiellement des habitants de quartiers pauvres en infrastructures et adossés à des collines instables en cas de fortes pluies. Moïse Katumbi, l'opposant congolais en exil, a assuré ce vendredi que son retour au pays était imminent après que le Comité des droits de l'homme de l'ONU a sommé les autorités de la République démocratique du Congo de l'autoriser à rentrer et d'assurer sa sécurité. Les précisions de Blanche Sanou.
Je vais rentrer au pays, mon retour est imminent, a déclaré l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, sans vouloir préciser de date au cours d'une conférence de presse à Paris. Autorisé à se rendre à l'étranger pour des soins médicaux en mai 2016, l'opposant a été condamné en RDC à 3 ans de prison pour spoliation d'immeubles. Récusant ces accusations, M. Katumbi avait porté plainte le 2 juin auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève contre le gouvernement du président Joseph Kabila. L'institution onusienne a accusé réception de sa plainte dans une lettre datée du 13 juin où elle demande à l'État congolais de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer que M. Katumbi puisse rentrer en République démocratique du Congo et puisse participer librement et en toute sécurité en tant que candidat aux élections présidentielles.
Les autorités du Malawi ont condamné ce vendredi les violents incidents qui ont récemment opposé des réfugiés rwandais et burundais dans un camp. Ces derniers jours, la presse locale a rapporté de vives tensions entre rwandais et burundais dans le camp de Zaleka, à une quarantaine de kilomètres de Lilongwe. Le quotidien The Nation a fait état de meurtres entre communautés Tutsi et Hutu des deux pays. Les autorités tanzaniennes ont suspendu pour 2 ans l'hebdomadaire Mawio pour avoir relayé des accusations liant deux anciens présidents à des contrats miniers controversés. Reporters sans frontières a dénoncé une ingérence intolérable. Le ministère de l'Information a estimé dans un communiqué publié hier soir que Mawio accuse les deux hommes alors que les enquêtes de deux commissions mises en place par le président ne les mettent nullement en cause et ordonne dès lors de suspendre la publication du journal sur papier ou sur Internet pour une durée de 24 mois. Au Maroc, des affrontements ont opposé la nuit dernière manifestants et policiers dans la ville d'Al-Hoceima, où le mouvement de contestation populaire se durcit après une vague d'arrestations et de lourdes condamnations. C'est ce qu'on a appris ce vendredi de sources concordantes. Un habitant accuse les forces de sécurité d'avoir violenté des femmes et blessé des manifestants. 86 personnes ont été présentées à la justice, dont une trentaine ont été emprisonnées et sont accusées notamment d'atteinte à la sécurité intérieure.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a reconnu dans un tweet qu'il faisait l'objet d'une enquête du procureur spécial pour avoir envoyé James Comey, l'ancien patron du FBI. M. Trump s'est également indigné des multiples enquêtes sur l'affaire russe, affirmant qu'il n'existe pas la moindre preuve de collusion avec la Russie. Cette enquête touche désormais les premiers cercles de la présidence. Les enquêteurs du FBI se concentrent notamment sur les finances et les affaires de Jared Kushner, gendre et proche conseiller du président, selon le New York Times. De son côté, le vice-président Mike Pence a embauché un avocat personnel pour répondre aux éventuelles requêtes des enquêteurs dans cette affaire des liens présumés avec la Russie. Donald Trump, qui par ailleurs va s'attaquer ce soir à l'une des initiatives les plus emblématiques de son prédécesseur Barack Obama. Il s'agit du rapprochement avec Cuba, entamé fin 2014 après plus d'un demi-siècle de tensions. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Lors d'un discours à Miami, Donald Trump pourrait annoncer l'interdiction des transactions avec les entités contrôlées par l'armée cubaine dans le secteur touristique. Il devrait aussi annoncer une application plus stricte des restrictions sur les voyages vers l'île communiste. Près de 300 000 Américains se sont rendus sur l'île au cours des cinq premiers mois de 2017, soit un bond de 145% sur un an. Contrairement à ses promesses de campagne, Donald Trump pourrait opter pour des ajustements limités. Le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays n'est aucunement remis en cause. Sur le plan économique, le 45e président américain pourrait interdire toute transaction financière avec le puissant groupe d'administration d'entreprise, Gezi. Les vols commerciaux et les croisières vers Cuba ne devraient cependant pas être affectés. Selon la Maison-Blanche, l'objectif des mesures à venir est de prendre des distances avec la politique de l'administration Obama. Le sénateur démocrate Patrick Lee, très impliqué sur ce dossier, a dénoncé un retour vers la guerre froide. Amnesty International a mis en garde contre les conséquences néfastes pour les Cubains d'un retour à la rhétorique de la guerre froide et à l'isolement.
D'ailleurs, le président américain est en train de s'exprimer sur la question. Donald Trump promet d'aider à la réalisation d'un Cuba libre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours aux États-Unis, le géant de la distribution en ligne Amazon va racheter les supermarchés bio Whole Foods pour 13,7 milliards de dollars. Créé en 1980 sur le credo du commerce équitable et du manger sain, Whole Foods subit depuis deux ans une désaffection des consommateurs. Whole Foods est présent dans 41 États américains, mais seulement dans trois pays, États-Unis, Canada et Royaume-Uni. La Russie annonce aujourd'hui qu'elle a probablement tué fin mai ce que la coalition internationale dirigée par Washington n'a pas été en mesure de confirmer. Le point avec Morgan Guiriec.
D'après l'armée russe, al-Baghdadi pourrait avoir été tué lors de bombardements aériens visant une réunion de hauts dirigeants de l'organisation djihadiste près de Raqqa en Syrie. L'annonce de Moscou intervient alors que le groupe État islamique est en passe d'être chassé de Mossoul, son principal fief en Irak, et que l'étau se resserre autour de Raqqa, sa capitale de facto en Syrie. Rappelons que la Russie, principal allié du régime syrien de Bachar al-Assad, a lancé en 2015 une campagne militaire pour lui venir en aide contre les rebelles et les djihadistes. De son côté, la coalition internationale dirigée par Washington ne peut confirmer si Baghdadi est mort ou pas. Pourtant, dans la province de Raqqa, ce sont surtout les avions de la coalition qui sont en action dans le cadre de l'offensive menée par des combattants arabes et kurdes syriens.
Merci beaucoup Morgane Guiriec. Les avoirs de la Banque centrale de Syrie en Suisse resteront bloqués selon un communiqué du tribunal fédéral. Le tribunal fédéral a en effet déclaré irrecevable un recours de la Banque centrale syrienne contre ce blocage. La Banque syrienne a encore un recours possible en demandant sa radiation de la liste noire au ministère suisse de l'économie. L'Iran dénonce les nouvelles sanctions adoptées hier par le Sénat américain en affirmant qu'il prendra des mesures réciproques. Le Sénat américain justifie ces nouvelles sanctions contre l'Iran par, dit-il, son soutien à des actes terroristes internationaux et son programme balistique. La loi doit encore être examinée et adoptée par la Chambre des représentants et signée par le président américain Donald Trump. L'Union européenne envisage de mettre sur pied une mission d'assistance sécuritaire et judiciaire en Irak après la défaite du groupe État islamique. Une demande d'assistance à l'UE a été formulée par le gouvernement irakien il y a plus d'un an. Cette équipe, dont le mandat, les tâches, la composition et la taille doivent encore être décidées, aura pour but d'aider les efforts de réforme de la police et de la magistrature en Irak. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle tout de suite dans la Minute Éco présentée ce soir par Claire Morin-Jubourg.
Le lancement des activités du port commercial Gabon Spécial Zone Économique semble avoir fait fléchir le groupe Bolloré, gestionnaire du port d'Owendo, sur les coûts de ses prestations. Ce nouveau concurrent affiche des tarifs 25% plus bas que ceux pratiqués par le groupe français qui était jusque-là en monopole. Bolloré a souvent été accusé par la société civile gabonaise d'être responsable du coût élevé de la vie au Gabon. Les syndicats du port de Cotonou ont décidé de reconduire un mouvement de grève lancé cette semaine. Les grévistes espèrent faire reculer le gouvernement qui a lancé le 29 mai un appel public à candidature pour recruter un mandataire chargé de la gestion du port, ce qui leur fait craindre des licenciements. À Tataouine, les autorités tunisiennes sont parvenues ce matin à un accord avec les manifestants d'El Kamour dans le sud du pays, avec la médiation de la centrale syndicale UGTT. Un sit-in a dégénéré en heurts le mois dernier et bloqué la production de pétrole. La microfinance est en plein essor au Sénégal. Selon des chiffres officiels, il y a plus de 333 milliards de francs CFA d'encours de crédit de la microfinance au premier trimestre 2017. En hausse de plus de 21% comparé à 2016.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Coup d'envoi de la Coupe de la Confédération en Russie.
Et oui, à un an du mondial, c'est la grande répétition générale avec cette Coupe des Confédérations qui démarre demain jusqu'au 2 juillet. La Russie veut montrer qu'elle est prête, mais aussi savoir ce qui peut encore être amélioré. 8 équipes participent à l'épreuve, la Russie, l'Allemagne, le Portugal, le Mexique, le Chili, le Cameroun, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. La Russie, pays hôte de la première Coupe du Monde en Europe de l'Est, sera sous le feu des projecteurs après la ferveur qui avait déferlé au Brésil en 2014. Malgré de nombreux soucis d'organisation, là, le problème est inversé. Les infrastructures sont prêtes, mais le pays se prendra-t-il de passion pour le football ? Réponse dans un an. En tout cas, le coup d'envoi de cette Coupe des Confédérations, c'est demain à Saint-Pétersbourg, dans le groupe A, la Russie face à la Nouvelle-Zélande. Et dimanche, à Kazan, dans le groupe A, toujours Portugal-Mexique. Et à Moscou, dans le groupe B, Cameroun-Chili.
Les Camerounais sont arrivés hier en Russie.
Troisième Coupe des Confédérations après celle de 2001 et 2003 pour les Camerounais. Les Lions indomptables champions d'Afrique en titre ont récemment été battus 4-0 par la Colombie de James Rodriguez. Le Cameroun est arrivé hier en Russie. Après le Chili dimanche, les Lions joueront contre l'Australie puis l'Allemagne. On se souvient qu'en 2003, le Cameroun avait atteint la finale de l'épreuve.
Et on termine par les transferts.
Après avoir recruté Mathieu Valbuena et Mehmet Ekissi, Fenerbahçe est parvenu à un accord de principe pour le transfert de Nabil Djirar, le milieu de terrain droit de Monaco. L'international marocain a signé un bail de 3 ans. Il était arrivé en janvier 2012 sur le Rocher. Autre transfert, Lille est bien parti pour recruter l'attaquant international ivoirien Nicolas Pépé, dont le contrat expire en juin 2019. L'écurie désormais entraînée par Marcelo Bielsa doit débourser près de 8 millions d'euros pour arracher la signature de ce joueur, auteur de 3 buts et une passe décisive cette saison en Ligue 1.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Après la vague de tuerie qui a secoué le territoire de Beni en 2014, 2015 et 2016, une accalmie fragile prévaut dans la région. Des milliers de ménages ayant fui les atrocités dans leurs villages se sont déplacés dans les agglomérations plus sécurisées comme Oicha et Mavivi. Mais ces déplacés y vivent un véritable calvaire. Les précisions de notre envoyé spécial à Beni et Oicha, Ernest Mouero.
La vie a repris ses couleurs à Oicha, à une trentaine de kilomètres de Beniville. Mais derrière le train de vie apparemment normal qui saute aux yeux, se cache un drame. La vie difficile des milliers de déplacés qui vivent ici. À l'école primaire Mwangaza, où nous arrivons en pleine journée, alors que dans les salles des classes, les élèves suivent les cours. Dehors, des déplacés visiblement très affamés sont allongés à même le sol, les regards dans le vide et attendent que le cours s'arrête pour qu'à leur tour, ils s'occupent de leur propre subsistance. Hélas, aucun n'est disposé à s'exprimer à notre micro. Janvier Kassahiro, président territorial des jeunes de Beni.
Ils sont dans une situation de désespoir par rapport aux événements, aux atrocités qui se sont passées dans la zone. Ce sont des gens qui ont fui leur milieu naturel et vivent dans des conditions très précaires. Il y a des élèves qui veulent venir les matins pour essayer, parce que ça fait frais, ils veulent étudier. Ils trouvent les gens encore endormis.
Des retours sur le site le soir, un rapide coup d'œil dans certaines salles de classe transformées en logis des circonstances pour se déplacer, nous marquons la mort dans l'âme, qu'une salle de classe sert à la fois des chambres, salons et cuisines. Enfants et adultes sont exposés aux intempéries. Richard Kirimba, deuxième vice-président du Conseil de la jeunesse de Beni.
Ce ne sont pas des sites aménagés. Hygiénique, la salle, c'est difficile. La salle qui contient maintenant plus de 30 personnes passe nuit là-bas et parmi ces personnes, il y a des couples, il y a des vieilles personnes, il y a aussi des jeunes adolescents, il y a des bébés. Est-ce que la pudeur est respectée? Et même la nuit là, est-ce que vous pensez que les gens sont assurer vraiment du sommeil. Je ne crois pas. Vous passez nuit à même le sol, dans une salle à plusieurs fenêtres non couvertes. Et imaginez-vous avec tout ce qu'on parle de la prévention contre la malaria. Les gens sont exposés aux maladies.
Nous apprenons qu'au départ, les déplacés avoisinaient 900 ménages dans les écoles. Mais au fur des interventions de certains humanitaires qui leur ont donné du cash, certains ont abandonné les écoles pour louer des maisons à bas prix dans la cité d'Oicha. La vie et survie de ces déplacés est un véritable parcours des combattants. Désiré Kimoto, chargé de la planification au sein de la CAD.
Ils ont développé un mécanisme de survie et ils font des petits travaux. Il y a ceux qui font des champs et ils sont payés par nature. Il y a ceux qui creusent des toilettes. Leur activité principale, ils font le concassage des noix et ils revendent ça sur le marché.
Selon la coordination d'aide aux déplacés CAD, une organisation locale basée à Oicha, ils sont plus de 3800 les ménages de déplacés recensés fin mai 2017 dans la commune rurale d'Oicha, suivant plusieurs vagues de déplacements. Parmi les déplacés recensés à Oicha, 400 ménages de Bantous et semi-Bantous sont encore établis dans des écoles. Plus de 200 ménages de Pygmées sont dans les sites de Mbimbi, Mabasele et à Oicha premier, et plus de 3000 ménages vivent difficilement dans des familles d'accueil. D'Oicha, en territoire de Beni, au Nord Kivu, Ernest Mouero pour VOA Afrique.
Salut, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous inviter à participer à l'émission interactive À votre avis à 18h temps universel ce vendredi sur VOA Afrique. Ce 16 juin est la journée de l'enfant africain. Comment percevez-vous le travail des enfants? Comment prévenir et éradiquer l'exploitation économique des enfants tout en assurant leur protection à long terme? Pour y répondre, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
Une mission de la Cour pénale internationale séjournera au Gabon du 20 au 22 juin. La CPI a ouvert un examen préliminaire sur les violences post-électorales qui ont fait au moins 27 morts et des dizaines de disparus entre le 31 août et le 2 septembre 2016. Le gouvernement du président Ali Bongo et le camp de l'opposant Jean Ping se renvoient la responsabilité des incidents. La CPI devra donc décider plus tard de l'ouverture ou non d'une enquête sur les allégations de crimes contre l'humanité ou de génocide. Pour une réaction, Jacques Aristide s'est entretenu avec Jean-Jacques Nzamba, président de l'ONG Diaspora Gabonaise pour la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance.
Vous savez, dans le monde, une des choses que nous partageons tous, c'est la recherche de la justice. Et souvent, nous sommes dans des pays où la justice est bipolaire, où la justice est aux ordres du gouvernement, et plus encore dans certains de nos pays, et comme le Gabon. Donc, il n'y a pas une indépendance entre la justice, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, et même souvent au niveau du pouvoir législatif. Donc, le Gabonais lambda qui recherche la justice est très content de cette arrivée prochaine d'une délégation de la CPI.
Alors, dans sa plainte, le gouvernement accuse Jean Ping, alors candidat de l'opposition, d'avoir invité la foule lors d'un meeting, je cite, à se débarrasser des cafards dans le but d'éliminer une partie de la population gabonaise. Fin de citation. De telles accusations relèvent-elles vraiment de génocide ou de crimes contre l'humanité ?
Moi, je pense que c'est une guerre de communication, mais c'est également un affront à ce qui s'est passé dans les années 90 au Rwanda. On ne peut pas faire une comparaison aussi grande. La preuve, lorsque l'on accuse M. Ping d'avoir demandé à la foule de faire quelque chose, les résultats sont là. Est-ce que la foule a attaqué des personnes ? Est-ce que la foule s'est attaquée à une ethnie particulière ? Non, il n'y a rien à voir pour qu'on parle d'un génocide.
Et nous savons qu'en décembre dernier, Jean Ping avait à son tour déposé un dossier à la CPI accusant le pouvoir d'être responsable à des violences post-électorales. D'après vous, cet examen préliminaire de la CPI devrait-il aboutir à une véritable enquête pour faire la lumière sur ces événements ?
Nous nous réjouissons déjà que la CPI, qui a bien enregistré ce dossier, puisse déjà envoyer une délégation. Ce que nous savons, de toute information que nous avons, c'est qu'effectivement, il y a eu des violations des droits de l'homme, des enlèvements, il y a eu des emprisonnements arbitraires. Avec les preuves que nous avons à l'appui, cette procédure devrait aboutir. Nous avons des personnes qui ont perdu des membres de famille qui n'ont pas toujours fait le deuil parce qu'ils ne savent pas où sont ces familles. Et nous avons des personnes sur place qui font tout pour essayer de mettre en confiance ou en sécurité ces personnes. Nous avons M. Georges Mpaga, nous avons M. Marcona et d'autres personnes également de la société civile qui sont très engagées pour dénoncer toutes les pressions qui sont mises sur les familles de ces personnes qui ont été massacrées.
C'était plutôt Jean-Claude Nzamba et non Jean-Jacques. Il est le président de l'ONG Diaspora Gabonaise pour la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian était aujourd'hui à Nouakchott dans le cadre de la mise en œuvre de la force conjointe du G5 Sahel. Le 2 juillet prochain, le président français Emmanuel Macron participera au sommet du groupe des 5 à Bamako. Jusque-là, un projet de résolution présenté par la France pour appuyer financièrement le déploiement de cette force rencontre des réticences au sein du Conseil de sécurité, notamment celle des États-Unis. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles le président du Centre pour la stratégie et la sécurité dans le Sahel-Sahara, Ahmedou Ould Abdallah.
Il y a une vraie menace ancienne, sérieuse, crédible sur la sécurité dans le Sahel. Comment la confronter ? On ne peut plus continuer à blâmer les autres. C'est d'abord une question aussi de nos pays, de notre région, une question de gouvernance, d'accepter nos pays qui évoluent avec leur opposition, leur diversité. On ne peut pas, chaque fois qu'il y a une crise, dire « il faut que les autres payent ». Je pense que les autres doivent contribuer parce que la menace est globale et concerne tout le monde. Ceci étant, passer à 10 000 troupes et vouloir trouver un financement immédiat, c'est un problème colossal. D'après les estimations des experts, 400 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent à mobiliser rapidement. L'Union européenne a promis 50 millions d'euros. C'est bien, mais de mon expérience, il faut préparer les dossiers. On ne va pas donner un chèque. Il faut préparer des dossiers et des arguments. Je suis très content que le président Macron prépare sa visite, mais il faut que nos pays aussi préparent des responsabilités et les assument au niveau des organisations, des forces de sécurité et au niveau de la recherche et de la mobilisation des financements.
Et ça montre le problème de ces pays pour gérer leur propre sécurité.
Effectivement, ce n'est pas maintenant que la combinaison des éléments de sécurité, c'est-à-dire trafic de drogue, de migration, trafic de cigarettes, une certaine gestion difficile de nos pays, plus les rébellions, ce n'est pas aujourd'hui que tout cela se produit dans le Sahel. Donc, il faut agir simultanément des réformes internes. La crainte, c'est que la lutte contre le terrorisme devienne comparable à la lutte contre le communisme dans les années 60-70. C'est-à-dire, attention, attention, il y a des terroristes, aidez-nous. Comme on disait avant, si vous ne nous aidez pas, les communistes vont prendre. Il faut changer de logiciel, avoir des armées professionnelles qui ne sont ni ethniques, ni régionales, ni tribales.
L'Union africaine semble être absente dans tout cela.
L'Afrique est le seul continent où l'organisation veut ou bien on lui demande de tout gérer. Elle ne peut pas tout gérer.
C'était Ahmed Ould Abdallah, ancien fonctionnaire des Nations Unies. Le père de la réunification allemande est mort aujourd'hui, l'ancien chancelier Helmut Kohl, qui a dirigé l'Allemagne de l'Ouest entre 1982 et 1998, est mort à 87 ans. C'est l'un des plus grands leaders de l'Europe d'après-guerre. Pour revenir sur son parcours, Eric Manirakiza a joint en France l'analyste Athanase Karayenga.
Trois événements majeurs. Un, il a su gérer avec beaucoup de tact la réconciliation entre l'Allemagne et la France, le geste d'amitié, la main tenue de François Mitterrand à Verdun, a vraiment marqué les mémoires. La deuxième raison pour laquelle il est vraiment connu pour être un grand chancelier qui aura marqué aussi l'histoire de l'Allemagne, c'est la façon dont il a géré l'extraordinaire réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest, sans réveiller les conflits, les antagonismes entre l'Est et l'Ouest, entre l'Union soviétique qui s'effondrait et l'Ouest. Donc il a géré ça avec une très grande habileté diplomatique et une grande efficacité économique. Et puis enfin, c'est quelqu'un qui a géré l'Allemagne avec beaucoup d'efficacité. Sous son règne, il y a eu beaucoup de prospérité économique. L'Allemagne est vraiment devenue une très grande puissance.
C'est quelqu'un qui entretenait des relations de confiance avec François Mitterrand, mais Mitterrand n'était pas chaud pour la chute du mur de Berlin.
Je crois qu'il a été surpris même par la chute du mur de Berlin. Il avait peur probablement que la réunification des deux Allemagnes et donc la chute du mur de Berlin réveille les conflits entre l'Union soviétique de l'époque et l'Ouest. Je crois que François Mitterrand était plutôt favorable à une sorte de stabilité, un équilibre atteint après la Deuxième Guerre mondiale où les puissances étaient réparties l'Allemagne. Et je crois qu'il a été surpris, mais il a dû gérer la chose, l'événement considérable que représentait la réunification des Allemagnes, avec beaucoup de tact aussi, avec beaucoup d'intelligence. Et il s'inscrit aussi dans la lignée de la construction de l'Union européenne qu'avaient commencé Charles de Gaulle et le chancelier Adenauer.
La chute du mur, donc du communisme, plus tard on voit la conférence de La Baule qui impose la démocratisation de l'Afrique.
Je ne crois pas qu'il y ait un lien direct. L'Union soviétique était épuisée économiquement parlant, épuisée par les guerres d'Afghanistan, épuisée par l'inefficacité économique du communisme. L'Union soviétique s'est épuisée toute seule.
L'analyste politique Athanase Karayenga en France. Merci à Lionel Gaïma et à Cédric Franklin pour la réalisation de cette édition. Abdourahmane Dia à la présentation. Au revoir.